Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous continuons nos pérégrinations et nous partons sur les nombreuses routes de pèlerinage qui sillonnent la France avec deux grands marcheurs, Pierre-Yves Le Priol, qui a notamment pérégriné il y a quelques années sur les traces de Charles Péguy de Paris à Chartres. Bonjour à vous Pierre-Yves.
Bonjour.
Également avec nous par téléphone, Bernard Riault, marcheur et écrivain breton, qui nous fait découvrir les Pardons ou encore les chemins du Troubrez dans de nombreux ouvrages. Alors, en route à l'occasion de cet été et des vacances avec mes deux invités. Mais avant de commencer notre émission, un petit rappel historique sur le pèlerinage avec vous, Alexandre Janté, on vous écoute.
C'est sans doute dans le pèlerinage effectué par les Israélites au temple de Jérusalem pour y prier et offrir les sacrifices que le pèlerinage chrétien tire ses racines, au moins spirituelles. Ces pèlerinages qui, avec l'extension de la diaspora juive, pouvaient bien prendre la forme d'une véritable équipée à travers la Méditerranée, restent vivants dans notre liturgie grâce à ce que nous appelons les psaumes graduels, l'ensemble des psaumes 119 à 133, spécialement conçus pour être chantés en montant à la ville sainte. Le christianisme, évidemment, n'a pas qu'un seul lieu privilégié pour adorer Dieu. Le sacrifice eucharistique peut être offert partout, pas juste à Jérusalem. Cependant, à la faveur de longues périodes de paix entre chaque persécution, certains chrétiens des tout premiers siècles déjà se rendaient en Terre Sainte pour y prier sur les lieux mêmes où le Christ était né, avait prêché, était mort et ressuscité. C'est qu'avec son dogme de l'incarnation, le christianisme a donné au monde physique le privilège insigne de voir Dieu, le Créateur, planter sa tente parmi nous, comme dit le prologue de Jean. D'où la ferveur de ces premiers chrétiens. Marcher en Terre Sainte, c'est marcher dans les pas mêmes de Dieu, c'est poser les yeux là où il les a posés. Les témoignages les plus anciens remontent ainsi au IIIe siècle. C'est cependant l'édit de tolérance de Constantin et la reconstruction d'églises sur les lieux saints, parmi lesquels le plus important reste le Saint-Sépulcre, qui va permettre le développement de cette pratique. En parallèle du grand pèlerinage dans Terre Sainte, le développement du culte des reliques des martyrs permet aussi le développement de pèlerinages locaux ou régionaux vers telle ou telle tombe où demeurent les restes mortels d'un saint. Enfin, les premières apparitions amènent également à l'établissement de sanctuaires. Ainsi, le petit village anglais de Walsingham drainait à partir du XIe siècle des foules venues de toute l'Europe du Nord venant vénérer la Vierge en un lieu qu'elle s'était choisi en apparaissant à une noble saxonne, un véritable Lourdes médiéval. Ces pratiques emblématiques de la piété populaire auront leurs détracteurs au cours de l'histoire. Il s'agit parfois des autorités ecclésiastiques qui émettent des doutes sur la vraie valeur spirituelle d'une telle démarche. Plus tard, l'humanisme et les Lumières, en recherche d'une religion raisonnable, débarrassée de toute superstition, rejetteront également ce genre de manifestation de la foi. Le 19e fut pourtant l'occasion d'une spectaculaire résurrection des pèlerinages et de leurs sanctuaires, qui peut apparaître comme l'âge d'or des pèlerinages en Europe de l'Ouest. Évidemment, depuis un siècle, et surtout depuis la période de l'après-concile, la pratique est de nouveau retombée au plus bas. Mais n'assiste-t-on pas à un retour des pèlerinages en ce début de XXIe siècle? On en parle aujourd'hui dans Ecclésia Magazine.
Alors Pierre-Yves Le Priol, peut-être une première réaction suite à ce papier. C'est vrai qu'on a le sentiment, et on a fait pas mal d'émissions d'ailleurs cette année sur la piété populaire, la résurgence de la piété populaire. On a parlé à la fois des apparitions de Fatima, mais aussi de nombreux pèlerinages qui ont de plus en plus de succès. Et même vous, Pierre-Yves Le Priol, vous avez fait réaliser ce pèlerinage Paris-Chartres sur les traces de Charles Péguy. Comme quoi, on a l'impression que ça revient un petit peu au goût du jour, non, cette pratique?
Oui, tout à fait. Ça revient absolument au goût du jour. Et puis, je rebondis tout à fait sur ce que vous avez dit, sur le retour des pèlerinages au XIXe siècle. Et très modestement, Charles Péguy est l'un des acteurs qui a réintroduit le pèlerinage dans la tradition française. Les pèlerinages au Moyen-Âge, on partait de sa maison, on allait sur le sanctuaire et on revenait à sa maison. Au XIXe siècle, avec l'arrivée des chemins de fer, il y a une évolution un peu du pèlerinage, à savoir que les personnes font un aller éventuellement à pied ou vont vers un pèlerinage en chemin de fer, notamment sur les sites Mariot, La Salette, Lourdes, etc. Charles Péguy, lui, revient à la tradition médiévale du pèlerinage. Je pars de ma maison à pied, je vais au sanctuaire et je reviens par le même moyen à pied. Donc, ces pèlerinages qu'il a effectués donc, en 1912 et 1913 et qui font l'objet de livres que j'ai écrits l'an dernier témoignent bien de ce retour à une tradition médiévale plus ancienne que Péguy, avec d'autres, a fortement contribué à rétablir.
Alors Pierre-Yves Le Préol, pourquoi avoir justement écrit ce livre En route vers Chartres dans les pas de Charles Péguy, donc paru chez Le Passeur? Vous étiez parti d'ailleurs avec Michel Péguy, l'un des membres de sa famille.
Tout à fait. On est donc parti à quatre amis. Ça a été aussi un moment d'amitié. 3 jours de marche, 95 kilomètres, pas très loin de Paris, pour aller jusque Chartres. D'abord, avant d'être un randonneur, ce que je suis, et un pèlerin, ce que je suis aussi, je suis un grand amateur, un fan, un inconditionnel de Charles Péguy. J'aime beaucoup son œuvre. Je l'ai rencontrée au mi-temps de ma vie. Elle a vraiment été déterminante pour moi. Et on veut donc partager ce grand auteur, à la fois poète, catholique, mais aussi essayiste de la République. On veut le partager au maximum autour de nous. Et l'une des façons, s'est-on dit, c'était peut-être de remettre au goût du jour le pèlerinage que Péguy avait effectué vers Chartres en 1912, puis 1913. Et donc l'association qui se charge de la promotion de son œuvre, l'Amitié Charles Péguy, qui porte bien son nom, c'est une amitié, c'est pas simplement une association.
Oui.
On a décidé donc de baliser à nouveau, à frais nouveaux, ce chemin qu'il avait fait pour inviter les personnes qui le veulent à prendre la route vers Chartres, aux portes de Paris. L'aventure commence au bout du RER. C'est un peu la spécificité de ce chemin de Charles Péguy, vraiment aux portes de la capitale. Et c'est aussi pour nous une façon de rendre plus visible dans l'espace public cette très belle personnalité de Charles Péguy.
Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi d'emprunter les chemins de traverse, les chemins noirs. On se souvient même du livre de Sylvain Tesson que vous avez peut-être découvert il y a quelques mois.
Absolument.
Sur les chemins noirs, où il traverse la France du sud-est jusqu'à la Normandie.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a ce
compagnon
désir.
Compagnon d'ailleurs d'édition, ouais. Parce que nous avons publié dans la même maison d'édition Le Passeur.
Et même si ces écrivains veulent entreprendre, alors lui, ce n'était pas une démarche de pèlerinage en tant que tel, mais de véritable randonnée, mais en même temps de volonté de redécouvrir, de contempler la nature. Et Charles Péguy en parle aussi de cette contemplation.
Oui, tout à fait. Charles Péguy a fait ce pèlerinage à cette période, très exactement, juste avant les moissons. Mmh. Et d'ailleurs, je recommande aux personnes qui éventuellement voudraient marcher vers Chartres, c'est maintenant qu'il faut aller. Enfin, on peut y aller n'importe quand dans l'année, mais les moissons sont belles. Péguy parle bien sûr des blés sur la Beauce. C'est fin juin, début juillet qu'il faut s'y rendre. Et effectivement, bien sûr, Péguy a admiré la nature qu'il a traversée. Dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, il est question de la beauté de cette création qu'il a sous les yeux. C'est un chemin, donc, encore une fois, qui traverse la vallée de Chevreuse, puis le vieux pays francilien qu'on appelle le Hurepoix, dont le nom est un peu oublié, mais c'est un vieux pays de la région parisienne. Et puis ensuite, bien sûr, la grande plaine de Beauce avec, à un moment, la magnifique cathédrale de Chartres qui se détache sur l'horizon.
Alors, on va revenir également sur ce pèlerinage en tant que tel, qui dure 3 jours, c'est bien cela? Enfin, normalement.
Nous l'avons fait, voilà. Nous, en 3 jours, mais nous sommes de bons marcheurs.
Voilà,
nous sommes des
ça.
Hommes dans la force de l'âge. On peut le faire en 4 jours, voire en 5 jours, pour les personnes qui ne veulent pas trop marcher. Il y a actuellement une densité suffisante de gîtes pour que les personnes puissent moduler cette marche vers Chartres selon leur capacité physique.
Alors vous allez nous donner également quelques conseils pour préparer un pèlerinage, peut-être également pour le réaliser, pour le faire. Comment ça se passe? La dimension de la prière, de la spiritualité aussi pendant cette marche. Alors est avec nous également Bernard Rio. Bernard Rio, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur de nombreux livres consacrés notamment au pèlerinage en Bretagne. Je cite parmi ces nombreux livres « Sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne » publié aux éditions donc, Le Passeur. Également un dernier livre qui a été édité, c'est « Pèlerins sur les chemins du Trobreis » publié aux éditions Ouest France, ainsi que « Les 7 saints de Bretagne, hagiographie bretonne et mythologie celtique » aux éditions Le Cénacle en 2016. Bref, Bernard Rio, c'est vrai qu'on sent que déjà la Bretagne vous intéresse tout particulièrement, mais aussi toute la piété populaire qu'elle recouvre.
Oui, 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 la Bretagne est inséparable de son patrimoine,
oui.
De son patrimoine sacré et voyé, puisque nous sommes le pays des pardons, comme on dit. C'est une singularité dans l'Europe continentale, ce phénomène du sacré qui associe à la fois la marche et la prière.
Alors peut-être, Bernard Rio, justement, sur la résurgence de cette piété populaire, du pèlerinage, des lieux là aussi où l'on se rend précisément pour prier, pour adorer Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment également qu'en Bretagne, c'est le cas, que même les Bretons, finalement, dans leur région, continuent cette pratique ancestrale, hein?
Non, on ne peut pas parler de résurgence en Bretagne, puisque oui. Nous sommes plus dans une permanence une continuité des cultes et des pèlerinages et des pardons. Néanmoins, on assiste effectivement peut-être à un regain de ces manifestations avec un élargissement des pratiquants. Si je prends la Troménie de Locronan, qui est avec le Trobrez l'un des, et Saint-Andoré, une des grandes manifestations de l'été en Bretagne. La Troménie de Locronan, auparavant, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, ne rassemblait que les paroissiens et les fidèles de ce qu'on appelle le Porzay, qui se trouve juste au-dessus entre Quimper et Douarnenez, dans le Finistère Sud.
Oui.
Et aujourd'hui, la Troménie de Locronan, qui a lieu tous les 7 ans, la grande Troménie alternant tous les ans avec une petite Troménie de 8 km, cette Troménie va rassembler des gens qui viennent de toute la Bretagne et même d'au-delà. Donc c'est aussi le cas dans le Trobrez, où lorsque le pèlerinage au long cours, qui est circulaire, puisqu'il se pratique en un peu plus d'un mois, on peut le faire en 45-47 étapes.
Il se déroule quand d'ailleurs ce Trobrez, Bernario ?
Une belle marche. Ce pèlerinage aux 7 saints fondateurs de Bretagne, auparavant, rassemblait uniquement des Bretons. Et là, ce qui est singulier, c'est qu'on va retrouver sur le Trobrez aujourd'hui des gens qui viennent du Berry, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Canada, des États-Unis, de Corée. Donc effectivement, il y a un phénomène qui semble attirer davantage les gens, à la fois épris de sacré, mais peut-être aussi avec un côté un peu exotique. C'est-à-dire qu'on va retrouver, comme au XIXe siècle, les Britanniques venaient en France pour chercher un peu d'exotisme, de singularité chez les mangeurs de grenouilles, eh bien on va venir en Bretagne, effectivement, pour retrouver un peu ce côté mystérieux, légendaire, avec une langue qui n'est pas toujours compréhensible, qui est même souvent incompréhensible par ceux qui ne la parlent pas, avec des cantiques en breton, avec une musique singulière, avec des costumes, des bannières. Donc ça participe peut-être d'un folklore,
oui.
Mais bon, c'est pas l'essentiel. Le moteur principal pour venir en Bretagne, je pense que c'est effectivement se connecter à une terre sacrée.
Alors peut-être justement quelques mots sur le Trobrez, Bernard Rio, il se déroule quand? On part d'où pour arriver où?
Alors le Trobrez se pratique de deux manières, en groupe, en pèlerinage annuel estival. Donc cette année, il va relier Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, la cathédrale de Saint-Paul, à la cathédrale Saint-Hugues de la Tréguier, dans les Côtes d'Armor. Donc il part le 31 juillet, il arrive le 7 août. Donc ça, c'est le pèlerinage estival. Donc tous les ans, il y a une grande étape et il se boucle en sept années.
D'accord.
Après Tréguier, ça sera l'année prochaine, direction Saint-Brieuc, puis Saint-Malo, Dol de Bretagne, Saint-Paterne à Vannes, Saint-Corentin à Quimper, et on revient à Saint-Paul-de-Léon, la boucle sera bouclée. Et puis, on peut le faire aussi en individuel. Donc depuis 3 ans, le chemin, il fait un peu moins de 1000 km, a été balisé par l'association des chemins du Trobrez avec Yvon Autrette et moi-même. Nous avons édité un guide à ce propos avec des hébergements pour permettre de le faire hors temps caniculaire, puisque l'été, effectivement, est une période un peu chaude pour marcher. Et sur les sentiers littoraux, c'est pas toujours très agréable, sauf partir à la fraîche le matin vers 5-6 heures. Mais pour marcher dans l'après-midi sous le soleil, c'est un peu moins agréable. Donc c'est vrai que moi, je conseille plutôt de partir au printemps ou en début d'automne. D'ailleurs, auparavant, les pèlerinages, les grands pèlerinages, se faisaient à la Saint-Michel.
Oui.
Nous étions dans un monde rural et paysan. Les moissons étaient terminées. Les baux des fermes se signaient. Et les engagements se signaient à la Saint-Michel. Et puis les pèlerins partaient effectivement à la Saint-Michel. Les journées sont encore belles, elles sont longues et pas trop chaudes. Donc c'est le temps idéal pour marcher.
Le titre de votre guide, peut-être Bernard Rio, avant d'interroger Pierre-Yves Le Priol là-dessus.
Excusez-moi, je ne vous
ai pas entendu. Le titre de votre guide.
Oui.
Peut-être pouvez-vous nous le donner pour éclairer nos auditeurs, éventuellement ceux qui souhaitent partir sur les routes de Bretagne.
Oui, alors le guide du Trobrez est édité aux éditions Cobrez en Bretagne, mais il est diffusé dans toute la France. Et on peut effectivement se connecter aussi sur le site de l'association des chemins du Trobrez. On, on tape Trobreiz, T-R-O-B-R-E-I-Z, et puis on va trouver directement toutes les informations utiles pour faire ce pèlerinage qui fait, comme je le disais tout à l'heure, un peu moins de 1000 km et qui surtout recense plus de 380 chapelles. Donc vous voyez, nous sommes vraiment dans un monde sacré et toutes ces chapelles, bien sûr, peuvent être ouvertes à la demande. Je l'indique dans le guide, d'ailleurs, les numéros de téléphone utiles lorsque les chapelles sont fermées afin de les faire ouvrir. Parce que l'important, effectivement, c'est de traverser un paysage, mais c'est aussi de se reposer et de faire une pause spirituelle dans ces lieux magiques que sont les sanctuaires du XIIIe au XVIIe siècle en Bretagne.
Pierre-Yves Le Priol, justement, vous également, dans votre livre « En route vers Chartres », dans les pas de Charles Péguy, vous évoquez également toutes ces informations, je dirais, pratiques que vous découvrez autour de ce trajet, justement, Paris-Chartres.
Oui, bien entendu. Donc, Péguy a décrit aussi beaucoup le paysage traversé. Et donc, on a à cœur, dans l'ouvrage que j'ai écrit, effectivement, de rendre compte aussi, de parler, bien sûr, de Charles Péguy, de son œuvre, de sa vie, mais également de nous émerveiller des choses qu'on voit et d'en rendre compte pour le lecteur. Alors, effectivement, c'est vrai que la Bretagne armoricaine, qui m'est chère et je connais bien, est très, très belle, très flatteuse, mais peut-être que la Beauce, moins réputée du point de vue de son paysage, a également sa forme de beauté. C'est un paysage parfaitement plat, mais sur lequel vous voyez très loin. Et il y a aussi une grande beauté de la nature. En plus, l'avantage d'un pays comme la Beauce, outre le fait, comme je vous l'ai dit, qu'on peut partir directement de Paris, c'est très proche. Oui. D'autre part, pour les Parisiens, en tout cas, pour vos auditeurs de région parisienne qui nous entraînerait, mais en plus, c'est une région très plate, donc il ne s'agit pas de franchir les Alpes ou les Pyrénées. Il n'y a pas de performance physique en question dans le pèlerinage vers Chartres.
Donc c'est pour ça qu'on peut le réaliser peut-être même en plein été. Parce que c'est vrai que, comme le disait Bernard Rio, il faut peut-être faire attention, tout dépend quel pèlerinage on fait.
Oui, alors effectivement, moi, ne pas marcher forcément à la mi-journée, mais c'est vrai que le pèlerinage tel que Péguy l'a fait et tel qu'il le décrit dans son œuvre, c'est lorsque les blés sont mûrs. Voilà. Et donc, je crois que la moisson commence à peine. Il est encore temps de le faire aujourd'hui. Mais bien évidemment, c'est un chemin qui est ouvert aussi au long de l'année. Donc, on peut également décider de le faire à l'automne ou au printemps, au beau jour. Il n'y a pas de laisser-passer. Vous prenez le chemin à partir du métro Lozère, sur la ligne de RER, lorsque vous êtes disponible, lorsque vous avez 3, 4 ou 5 jours, n'importe quand dans l'année.
Alors également, c'est ce que nous dit Charles Péguy, peut-être sur le fond même du pèlerinage, pourquoi partir en pèlerinage ? Charles Péguy évoque directement, sans ambages, la dimension spirituelle, en évoquant les grâces inouïes qu'apporte justement ce pèlerinage, et notamment quand il décrit son arrivée à Chartres.
Oui, disons que Péguy a constaté que, je pense, que comme nous tous peut-être, que la prière n'est pas toujours évidente. S'enfermer dans une chambre, entrer profondément dans la prière, c'est un privilège, ça demande un effort. Et peut-être qu'il y a aussi une façon de prier avec les pieds. Je pense que tous les pèlerins dont on nous a parlé tout à l'heure, depuis le Moyen-Âge, avaient expérimenté ça. Lorsqu'on pèlerine vers une destination, on n'est pas toujours profondément dans la prière. Parfois, on a l'esprit aussi qui vagabonde, etc. Ouais. Mais le pas de la marche, la légère souffrance qu'on peut aussi ressentir dans les jambes, etc., tout ça participe d'une forme de prière du corps. Je pense que Péguy l'a bien vécu, l'a bien exprimé. Il est clair que marcher vers un sanctuaire, c'est une forme de prière peut-être dans laquelle le corps est également associé et qui est peut-être plus facile qu'une prière consistant à plonger en eau profonde en restant immobile quelque part dans sa chambre. Bien sûr, cette prière a également sa grandeur, mais la prière du marcheur a également sa beauté et peut-être que c'est un chemin moins escarpé que la prière en profondeur seule chez soi.
Bernard Rio, justement, sur la prière du corps, c'est vrai que le pèlerinage nous permet finalement de mettre notre corps en action et d'être un petit peu dans cette incarnation qui est très chrétienne, finalement. C'est-à-dire que notre prière s'incarne finalement dans notre démarche, dans une action.
Tout à fait. J'abonde et je salue d'ailleurs Jean-Yves Le Priol. Effectivement, le pèlerinage est une marche autant intérieure qu'une marche physique. C'est que quand on part en pèlerinage, quand on part sur un chemin, on sait approximativement où on doit aller dans la géographie. Ce qu'on sait d'autre moins, par contre, c'est effectivement là où ce chemin va nous amener au niveau spirituel.
Oui.
Et c'est effectivement, c'est mettre l'esprit en branle, comme le corps va se mettre lui aussi en branle. Et cette avancée dans l'espace va correspondre aussi à une avancée intérieure. Je crois que ce qui fait le succès, le regain des pèlerinages d'aujourd'hui, c'est effectivement tout ce travail de physique qui amène à une métaphysique. C'est une approche qui est effectivement qui est nouvelle aujourd'hui dans une société extrêmement sédentaire, c'est-à-dire que les gens travaillent à des bureaux, assis, ils ne bougent pas, et lorsqu'ils bougent, ils sont plus transportés qu'autre chose, c'est-à-dire qu'ils prennent un bus, une automobile, mais le mouvement physique n'existe quasiment plus. Et le pèlerinage permet de se raccorder à la nature, à son environnement, par effectivement ce mouvement du corps. Ce que disait notre ami à propos de Charles Péguy est tout à fait juste. C'est effectivement, Charles Péguy a repris l'usage ancien du pèlerinage en marchant, en se déplaçant physiquement, en éprouvant son corps et son esprit. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui pour l'homme moderne de comprendre que le monde n'est pas fait que d'asphalte, de métro et de luminaires. On n'est pas forcément dans un monde urbanisé et que la Terre est surtout autre chose que la ville.
Puis c'est la redécouverte du monde d'une certaine manière, c'est le moins qu'on puisse dire, Pierre-Yves Le Prieul. Et puis c'est vrai que dans le pèlerinage, et on le sent d'ailleurs à travers votre ouvrage et même ceux de Bernard Rio, qu'il y a une forme d'éloge de la lenteur finalement.
Oui, tout à fait. Hein, il est sûr que il est tout à fait possible d'aller à Chartres en train ou en voiture. Mais le fait d'y aller lentement, au rythme de vos pas, vous permet de voir plein de choses que bien évidemment vous ne voyez pas. Et puis, cette émotion spécifique à ce pèlerinage de Chartres, qui est donc l'apparition à une vingtaine de kilomètres sur la ligne d'horizon de la cathédrale de Chartres, ne peut être vécue avec une intensité d'émotion que si vous y alliez à pied. Si vous allez en voiture par l'autoroute, bon, vous allez la voir tout d'un coup, mais vous n'allez pas être étreint comme vous l'êtes lorsque vous avez déjà 50 ou 60 kilomètres dans les pattes et que tout d'un coup, le but vous apparaît. C'est aussi l'une des spécificités de ce pèlerinage de Chartres, ce terrain plat, et donc sur la ligne d'horizon, soudain, la cathédrale qui apparaît. Il faut encore beaucoup marcher avant d'y parvenir. Il ne s'agit pas de croire lorsqu'on la voit qu'on y est déjà, mais je compare un petit peu ça d'ailleurs à ce qu'ont raconté les pèlerins sur l'arrivée du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, hein, tous les récits du Moyen-Âge, lorsque au Mont de la Joie, je crois, tout d'un coup, le sanctuaire apparaît et où les pèlerins avaient l'habitude, je crois, de jeter leur chapeau en l'air et de festoyer. Ils avaient encore beaucoup de marche derrière, mais au moins, ils voyaient le but. Et c'est effectivement également l'une des spécificités de ce pèlerinage de Chartres aux portes de la région parisienne.
Bernard Rio, c'est vrai que, comme le dit Pierre-Yves Le Prieul, après finalement cet effort physique, cet effort spirituel, l'arrivée, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, est une espèce de fête, une festivité finalement pour le corps et pour l'âme.
L'arrivée est perçue différemment et vraiment d'une manière complètement opposée au fait de poser son véhicule sur un parking et de faire 50 mètres pour arriver dans le sanctuaire. C'est un autre état d'esprit. Comme disait Pierre-Yves Le Prieul, le pèlerin voit le sanctuaire de loin. Il y accède et il se prépare et il se met en osmose avec le lieu. Donc c'est quelque chose qui transcende d'approcher physiquement, de se préparer physiquement pendant des heures, voire quelques dizaines de minutes simplement. Je conseillerais même à tous les gens qui vont visiter des sanctuaires cet été, que ce soit en Bretagne ou à Chartres, mais pourquoi pas au Mont-Saint-Odile en Alsace, ou à Conques dans le Lot, à la Sainte-Baume en Provence, quel que soit le lieu, qu'il se stationne à 3-4 kilomètres du lieu et qu'il parte à pied. Il part à pied pour faire les derniers kilomètres ils auront une approche complètement différente du sanctuaire. Ils feront leur propre pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas simplement rentrer dans un sanctuaire, c'est marcher vers.
Oui.
C'est aller vers. C'est le vieux sens du chemin, du mot chemin. L'étymologie du chemin vient du gaulois Saint-Tu, qui a donné le mot sentier d'ailleurs. C'est se déplacer. Voilà. Donc, retrouvons l'esprit du chemin en le pratiquant avec nos pieds et avec notre tête.
Avec nos pieds, avec notre tête, avec notre corps. C'est un bon résumé finalement de ce qu'est le pèlerinage. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler justement de vos pèlerinages un peu respectifs. Pierre-Yves Le Priol avec votre ouvrage En route vers Chartres, dans les pas de Charles Péguy, avec une préface de Michel Péguy, avec lequel vous avez donc entrepris ce pèlerinage il y a quelques années maintenant, aux éditions Le Passeur, éditeur. Et puis vous, Bernard Rio, de nombreux ouvrages. On en a parlé sur les chemins des Pardons et pèlerinage en Bretagne aux éditions Le Passeur. Et puis un guide également pour le Trobrez, Pèlerin sur les chemins du Trobrez, publié aux éditions...